Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Voilà Jésus, merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci Seigneur pour ce moment, merci parce que tu conduis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi l'élévation, c'est des siècles, au nom de Jésus. Amen. Alors à partir d'aujourd'hui et puis les mardis qui suivent, en fait les mardis du mois de décembre, on va prier, intercéder par rapport à la foi, sur le modèle de l'enseignement que nous avons donné en ce qui concerne la foi. Ma prière est que chacun de vous puisse expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Amen. Les choses que je vais partager avec vous sont des choses que personnellement j'ai vécues, je connais et je vois tous les jours dans ma vie. Il se trouvait simplement que peut-être je ne comprenais pas toujours le principe. Et il y a certaines personnes ici qui les vivent tout le temps, mais peut-être qu'ils n'en savent pas le principe d'exécution. Et ce principe d'exécution-là est clairement dans votre Bible. Comment est-ce que Dieu exauce? Comment est-ce qu'on provoque la foi? Amen. Et comment est-ce que Dieu exauce? Mais on a aussi appris pendant ce séminaire, durant tout le mois dernier, le mois de novembre, que la foi, ce n'est pas seulement un moyen pour obtenir quelque chose. La foi, c'est un mode de vie. C'est une manière de vivre. Dieu aime des personnes qui se réveillent le matin par la foi, qui dorment avec la foi, qui saluent les gens avec la foi, qui dans leur vie de tous les jours vivent par la foi. C'est ce dont il est question en Hébreux chapitre 10, verset 38. « Mon juste vivra par la foi ». La foi est donc un mode de vie. Un mode de vie qui a pour moteur cela, le changement de votre pensée par la parole de Dieu. Amen. La foi vient, comprendre la foi, c'est comprendre la nécessité du changement de la mentalité. Pour vivre la foi, il faut tout simplement changer sa pensée. C'est par la foi que vous avez été sauvés. Je crois que tous ceux qui sont ici ont déjà donné leur vie à Jésus. C'est par cette foi-là, justement, que vous êtes sauvés. Amen. Alors, comment ça s'est produit pour avoir le salut? Le salut, je veux dire, personne parmi nous n'est déjà arrivé au ciel. Mais, lorsqu'on nous a parlé de l'évangile, on nous a parlé du royaume de Dieu, on s'est fait un rêve dans notre esprit, dans notre subconscient. On a imaginé, personne n'a jamais vu le paradis, mais on a imaginé ce que ça sera d'être auprès de Dieu. Et on a aussi vu ce que ça sera d'être, de ne pas être auprès de Dieu, d'être à l'enfer. Et quand on a essayé d'imaginer ce genre, on a vu cela, on a cru, on a espéré, on a dit, ah, sûrement que c'est vrai. Et pourquoi nous demeurons tout le temps dans la foi? Parce que malgré les discussions, malgré les problèmes, nous maintenons fermement dans notre cœur qu'il y a un jugement, qu'un jour tout le monde rendra compte à Dieu. Donc on a un rêve, personne ne l'a vu, on a un rêve, et on est convaincu qu'il va se réaliser. Et parce qu'on croit qu'il va se réaliser, donc on est ferme dans cette pensée. Des gens peuvent venir nous dire, vont venir s'opposer sûrement à notre foi, pour dire pourquoi tu crois, tout ce qu'on te raconte ce sont des balivernes, etc. etc. Mais malgré tout, tu demeures dans la foi, tu gardes fermement la pensée du salut. Amen. Tu gardes fermement la pensée du salut, tu as une certaine assurance là-dessus, et tu commences à faire la démonstration. La démonstration, c'est quoi? C'est que déjà dans ta vie présente, tu vis comme si tu étais au ciel. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, tu sais qu'au ciel, on ne vole pas. Donc déjà dans le présent, tu ne voles plus, tu ne triches plus, tu ne mens plus. Donc tu démontres ce que tu seras au ciel. C'est la démonstration donc de ce qu'on n'a pas encore vu. Parce que peut-être que si on venait dire, c'est un peu dommage, que si là le Seigneur vient nous annoncer que le paradis est fini. Non, pas le paradis. L'enfer est... Enferme l'enfer. Ça ne va jamais arriver. Soyez convaincus. Mais si Dieu vient annoncer subitement, brusquement que chrétien, chrétienne, homme, terrien, terrienne, l'enfer est clos, c'est fermé. Dieu a décidé que il n'y a plus d'enfer. Honnêtement, jugeons-nous. Combien continueront à venir à l'église? C'est que les gens vont venir me saluer. Pasteur Sanogo. Pasteur Sanogo, tu as pris la nouvelle? On dit quoi? Dieu a envoyé ses anges. Dieu lui-même est descendu pour nous annoncer qu'il n'y avait plus d'enfer. Ah bon? Merci en tout cas pour les enseignements que tu nous as donnés. C'était bien. Mais maintenant, on va prendre la vie. La vie. La vie. Le séminaire, la semaine prochaine, va nous amener à nous attacher à Dieu sans peur de l'enfer. à nous attacher à Dieu par amour pour le Seigneur. Mais bref, je veux vous dire que en chacun de nous, même pour le salut, il y a d'abord une espérance. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes sauvés par la foi. Amen. Maintenant, cette foi-là qui t'a amené au salut doit conduire ta vie en toutes choses. Ta vie doit être conduite par une espérance, par un rêve qui te donne une attitude dans le présent. Amen. Et ce rêve-là, tu dois le garder fermement. C'est pourquoi il dit, mon Jésus vivra par la foi. Même lorsque tu vas au travail, tu dois aller au travail avec une espérance. Même lorsque tu veux te marier, pour te marier, il faut avoir un type de rêve. Sinon, ton mariage va tomber à l'eau, ne sera pas bien. Même un enfant, pour un enfant, en tout cas pour toute chose dans la vie, il faut avoir un rêve. Amen. Alléluia. Alors, on revient sur notre passage. Bon, d'abord, on va lire même Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Avant de toucher ce passage, revenons à la diapo précédente, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, verset 1, notre passage que nous connaissons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on va commencer notre exercice et nos prières maintenant par l'espérance. Amen. Alléluia. On va apprendre à rêver. Est-ce qu'on peut rêver? Est-ce qu'on peut commencer à prier avec un rêve maintenant? Tu as pris ta feuille pour écrire là-dessus un rêve. Je vais te montrer dans la Bible pourquoi est-ce qu'il faut écrire. Et pourquoi est-ce que tu dois conserver ton rêve constamment devant toi. Vous savez, vous ne pouvez pas obtenir les choses si vous ne les désirez pas ardemment, si vous n'avez pas une vision constante de ce pourquoi vous priez devant vous. Même les bonnes choses qui vous sont arrivées, qui sont un exaucement de Dieu, sont venues par ce principe-là. Mais seulement vous n'en étiez pas conscient. Vous n'en étiez pas conscient. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on me suit? Tout le monde a son stylo, sa feuille. Ok. Donc, on va aller maintenant. Le premier point, c'est l'espérance. Donc, la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. Je vais insister, on va prier par rapport à l'espérance parce que je sais que pour certaines personnes, il leur est difficile d'espérer. Ou bien ces personnes-là espèrent dans certains domaines de leur vie, mais dans d'autres, elles n'espèrent pas. J'ai rencontré, par exemple, il n'y a pas longtemps, une sœur qui a une facilité, ça veut dire tout ce qui est problème matériel et financier, tout ce qui est difficulté financière, vraiment, ce n'est pas un problème pour elle. Elle est partie, Dieu l'a fait la grâce d'avoir une des parents qui avait les moyens, mais les a laissés sans héritage particulier. Elle s'est retrouvée dans un autre pays. Naturellement, on l'embauche. Hein? Les gens ont le même diplôme qu'elle, mais elle, on la prend facilement. Elle trouve facilement du boulot. Et puis, elle est toujours bien payée, quelle que soit la situation. Mais elle a un problème au niveau du mariage. Et quand j'ai pris le temps de m'entretenir avec elle, je me suis rendu compte, en parlant avec l'histoire même de l'espérance et des pensées, j'ai discuté avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, pour ce qui est du matériel, elle ne s'est jamais souciée. Il y a comme une paix en elle. Et dans sa vie, de manière inconsciente, quand elle rêve, elle ne se voit jamais dans la galère. Bon, en fait, ce n'est pas une pensée consciente, ce n'est pas qu'elle s'assoit pour y réfléchir. Mais profondément dans son cœur, elle n'est pas pauvre. Vous savez, les pensées, c'est pas forcément que vous en êtes conscient. Maintenant, par contre, au niveau de sa famille, même de ses parents, ils ont connu vraiment beaucoup de drames, beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes dans la famille, beaucoup de difficultés. Et elle n'arrive pas à se départir de cette image-là des foyers catastrophiques. Vous comprenez, non? La plupart des foyers qu'elle a vus devant elle, comme modèle, ses propres parents, certains de ses oncles et les gens autour d'elle, tout ce qu'elle a vu, c'était noir. Donc, durant tout le temps, avant son mariage, elle avait la pensée de ne pas tomber dans la même situation que ses parents. Comment faire? Elle sent qu'elle veut se marier. À un moment donné, elle dit, je ne veux pas me marier. Mais tout ça, ça se passe en pensée. Et puis à un moment donné, elle pense au mariage, mais avec la peur. Il ne faut pas que ce qui est arrivé à un tel m'arrive. Donc, il se trouve que, là en ce moment, pour ceux qui ont suivi l'enseignement, elle n'est plus en train de rêver, elle n'est plus en train d'espérer, mais elle pense beaucoup plus à son cauchemar qu'à son rêve. Et ce qui devait arriver, arriva. Problème, divorce, séparation, difficulté. Très belle femme, mais jamais quelqu'un dans sa vie, les gens s'approchent, mais quand tu la regardes, tu dis, mais quand tu la vois à l'église, elle aime le Seigneur, elle prie, Tu dis, mais c'est celle-là, est-ce qu'on peut même la fiancer et puis la laisser? Mais au moins 5 à 6 fiançailles, toujours brisées, suivi mariage, abandon, divorce, tout. Et d'où vient le problème? Dans sa tête, elle est très belle, elle a tout, elle a du boulot, elle a de l'argent. Problème de l'espérance. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, voici les projets qu'il a établis pour nous. Amen. Jérémie 29, verset 11. Regardez ce que Dieu dit en ce qui concerne votre espérance. Pour les sujets pour lesquels on va prier tout à l'heure. Parce qu'on ne va pas prier pour n'importe qui. On ne va pas prier précipitamment. On ne va pas crier ouh. On va aller par pas à pas. On va apprendre à rêver. Alléluia. On va apprendre à rêver. Jérémie 29, verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Regardez d'où vient l'espérance. Il dit, « Pour que vous ayez l'espérance, soyez convaincus que les projets que j'ai pour vous sont de bons projets. » Ce n'est pas moi qui le dis, ça va passer sans nous. Ça c'est Dieu. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. » Dieu veut que tu aies la paix. Dieu veut que tu vives la paix. Donc, il n'y a aucun plan dans le trône de Dieu, auprès de Dieu, qui est pour ton malheur et pour les problèmes. Dieu n'a pas la volonté de te voir souffrir dans ton foyer, avec tes enfants, de te voir dans la galère, dans la pauvreté, en tout cas dans une vie, n'est-ce pas, malheureuse. Quel que soit l'aspect que tu vis dans ta vie. À tout point de vue, Dieu veut que tu sois béni. Amen. La Bible dit que nous avons été bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, tout ce qui s'appelle bien existe pour nous dans le ciel. La foi est le moyen par lequel nous allons amener ces choses-là du ciel sur la terre. N'est-ce pas? Car nous disons dans la prière que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Or, au ciel, on t'a déjà béni de toutes les bénédictions. Maintenant, comment tu vas faire pour amener ça sur la terre? Amen. Au ciel, ta place est déjà au paradis. Alléluia. C'est pourquoi, par exemple, vous allez voir pourquoi la place de tout le monde est au paradis. Il y en a un qui me dit, il y en a un qui va aller en enfer. Regardez bien votre Bible. Dieu ne dit pas aux gens, je vais écrire ton nom dans le livre de vie. Il parle d'effacer le nom. Il dit, si tu ne restes pas droit, je vais effacer ton nom. Ça veut dire que les noms sont déjà écrits. Lisez bien votre Bible. Donc, les projets, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il parle d'effacer. Il ne parle pas d'écrire. C'est pas maintenant on va écrire ton nom. Ton nom est déjà écrit. Maintenant, il ne faut pas faire en sorte qu'il soit effacé. Voilà le problème. Donc, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, les projets de Dieu sont bons. Donc, imagine, pense déjà à la paix. À quoi ressemble ta paix? La paix qui vient de Dieu. Hein? Il dit, voici les projets que j'ai fait pour toi, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parce que Dieu a ses projets. Avant que ces projets-là ne se réalisent dans ta vie, il faut que ces projets-là créent en toi, savoir que j'ai un avenir. J'ai de l'espérance. Il y a un avenir pour ta vie spirituelle. Il y a un avenir pour ta vie sociale. Il y a un avenir pour ta vie conjugale. Il y a un avenir pour tes enfants. Il y a un avenir. Il existe un avenir. Il y a un avenir favorable. Est-ce que tu peux croire en Jérémie 29, 11? Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux croire? Il y a un avenir favorable. Alléluia. Alléluia. Proverbe 29, verset 18 dit ceci. Lorsque, ça c'est dans la version de la Bible français courante. Il est dit, français courant, il est dit. Lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Proverbe 29, verset 18 dit, lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, dans la Louis II dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Si vous n'avez pas de l'espérance, votre vie sera désordonnée. Si vous n'avez pas une vision d'avenir, on vient de lire que Dieu dit, j'ai établi pour toi un avenir favorable. Une vision, c'est voir. Si tu ne vois pas, Dieu a déjà établi. Il dit, car je connais les projets que j'ai établis pour vous. Ça, c'est Dieu qui l'établit. Proverbe 29, verset 18 dit, il faut que tu puisses voir. Tu dois voir ce projet-là. Si tu ne le vois pas, tes projets d'avenir, ta vie dans le présent sera désordonnée. Ça veut dire qu'il va t'arriver des choses que tu n'as même pas souhaitées. Alléluia. Alléluia. Si tu ne vois pas quelque chose pour ton foyer, si tu n'as pas une vision future de ton foyer, si tu ne rêves pas ta maison, qu'il y a un blackout et c'est noir dans ta tête, c'est le noir qui va arriver dans la maison. Et c'est le noir que tu voyais. Donc tu es obligé de voir quelque chose. De toute façon, tu as plus ou moins une vision. Certains, malheureusement, ont résumé le mariage, je prends l'exemple du mariage, juste à la vision de la célébration, le jour des noces. Ils n'ont jamais pris le temps de rêver leur foyer. Et il arrive dans leur foyer des choses qu'ils n'auraient pas souhaitées. En fait, ils ne s'attendaient pas. C'est ce qu'on appelle le désordre. Les choses arrivent, tu ne sais même pas d'où elles viennent. Bam, 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 bam. Parce qu'en fait, tu n'as pensé à rien. Donc, ton cerveau pensait seul. Il pensait seul. Ne laisse pas ton cerveau penser seul. Ne laisse pas ton cœur penser seul. C'est pourquoi il te dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui sont les sources de la vie. Tu dois veiller. Tu dois analyser ce à quoi il pense. C'est pourquoi il dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, fasse l'objet de vos pensées. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc dis à ton voisin, il faut rêver maintenant. Alors avec votre feuille, on va commencer à rêver pour nos premiers trucs. Nos premiers rêves, c'est par rapport à notre espérance en Christ. Notre espérance en Christ, c'est à partir de là que vient le salut. Comment, là, réfléchis en toi-même, sincèrement et sérieusement. Comment te vois-tu après la mort? Comment est-ce que tu te vois après la mort? Je ne demande pas d'écrire la question, hein. Tu peux écrire pour te rappeler. Mais de savoir, comment est-ce que tu te vois quand tu vas mourir? Peut-être beaucoup, plusieurs n'ont même pas pensé à ça. Ou bien ils évitent d'y penser. Ils disent, mon frère, soyons concrets. Le présent, c'est le présent. Retiens bien, si tu n'as pas de vision d'avenir, ta vie sera un désordre. Or, l'avenir le plus lointain que tu peux espérer, c'est celui qui va venir quand tu seras auprès de Dieu. C'est lui qui va commencer à tout déterminer. Parce que c'est cet avenir-là qui détermine ta façon de vivre. Si tu n'as aucune vision de l'avenir, dans le présent, tu n'auras pas la crainte de Dieu. Tu ne vas pas marcher dans la sainteté. Parce que tu ne t'attends même pas. En fait, le ciel même, pourtant, tu n'y penses même pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu n'as pas cette vision d'avenir en ce qui concerne le royaume de Dieu, dans ton présent, tu vas vivre dans le désordre. Ça ne te fait rien de te mettre dans l'impudicité, de te mettre dans l'adultère, parce qu'il n'y a pas de vision d'avenir. Alléluia. Alors, avant de penser à ton mariage, à tes affaires, un jour tu vas partir. Est-ce que tu as commencé à voir? Qu'est-ce que tu attends que Dieu dise de toi au dernier jour? Qu'est-ce que Dieu va dire de toi? Imagine-toi maintenant au dernier jugement. Dieu est sur son trône. Il arrive. Sanogo Mohamed Yérignan. Le grand livre. Quand le Père va faire la lecture de ma vie, que dira-t-il de moi? Verra-t-il le sang de Jésus qui a effacé mes péchés et ma vie qui est rentrée pleinement dans la destinée pour que je rentre au ciel? Qu'est-ce que je vois? Comment je vois ce jour-là? En fait, profondément, il y en a qui n'y pensent même pas. C'est pourquoi dans la vie présente, ils vivent dans le désordre. Ils ne savent pas qu'un jour, ils vont rendre compte. Pour chaque parole, chaque mot, tout ce que tu as dit, tu as fait. Alors, vois qu'au jour du jugement, là, comme Dieu a des bons projets pour toi, toi, tu es au paradis. Vois-toi au paradis. Non, non, il ne faut pas commencer à voir en disant, ce jour-là, je suis tellement mauvais. Moi, c'est sûr que j'ai trop péché sur la terre. D'accord. Nous tous qui sommes là, pasteur Sanogo, prophète, le grand prophète Moïse, tous les gens que vous citez, Pierre, Jean, tous ceux que vous voulez citer, sont tous des grands pécheurs. L'apôtre Paul, tout le monde a péché. Tout le monde a fait des bêtises. Mais le paradis n'est pas donné à ceux qui n'ont jamais péché, mais à ceux qui ont cru en son sang. Tout le monde a accès au paradis. J'ai dit tantôt que Dieu n'écrit pas le nom. Les noms sont écrits. Seulement il y a des noms qui seront effacés. Alors ta place est là. Tu n'es pas fait pour aller en enfer. Je connais les projets que j'établis pour toi, dit Dieu. Des projets d'avenir. Une espérance. Alors, vois-toi au paradis. On peut fermer les yeux puis se voir au paradis. Moi, je me vois au paradis. On court dans le jardin de Dieu. C'est tellement beau. Waouh. Regardez comment c'est beau. Entendez déjà même le son des oiseaux qui chantent. Les belles rivières qui coulent. Une joie extraordinaire qui remplit vos cœurs. Commençons à rêver. Il faut rêver, mon ami. Vois-toi déjà au paradis. Auprès de Dieu. Comme un ange. Il y a une joie, une paix extraordinaire dans ton cœur. Avec ton Seigneur, Jésus vient t'attraper par la main. Il marche avec toi. Tu lui poses toutes les questions, tout ce que tu ne comprenais pas sur la terre. Et il te parle. Mon fils, ma fille bien-aimée. Vois le Seigneur en train de sécher toutes tes larmes. Et puis en train de te dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. Tu as combattu le bon combat. Tu as gardé ta couronne. Vois le Seigneur te récompenser de beaucoup de choses. Tiens ceci. Regarde, tout ce territoire, il est à toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors vous pouvez écrire déjà sur votre feuille. Tout ce que vous voulez que Dieu vous dise quand vous serez auprès de lui. Ce que je vais vous dire maintenant, vous n'allez pas écrire peut-être tout entièrement, mais il faut que vous écriviez ça. Il faut que ces choses-là soient écrites et que vous les gardez chez vous à la maison, là devant vous. Parce que ça va conduire, ça va orienter votre vie, ça va orienter votre rigueur dans le temps présent, ça va orienter vos choix. Parce que vous faites tout, vous démontrez dans la vie présente ce que vous serez demain. Je me vois quand j'arrive au ciel, les anges qui font une haie et qui acclament. Parce qu'un véritable soldat, un gagneur d'âme, un amoureux de Jésus arrive au ciel. Et je marche au milieu des anges qui applaudissent. Waouh! Et le Seigneur qui m'accueille, qui dit non, Mohamed, Sanogo, tu m'as trop épaté sur la terre. Et je t'ai donné de petites choses, mais ce que tu as fait, waouh! Tiens, le prix de la vocation céleste. La Bible dit que un temps même on va régner sur la terre. Pendant 1000 ans. Ouais. La Bible dit que ceux qui ont été fidèles vont régner sur des villes. Est-ce que vous croyez que c'est vrai toutes ces choses? Mais c'est la vérité. Alors moi je vois que je ne sais pas quel pays on va me donner là. Hein? En tout cas, tous les bons pays. Vous savez que quand vous lisez l'apôtre Paul, Paul dit, je cours pour obtenir le prix de la vocation céleste. Vous comprenez que son zèle était déterminé par son rêve. Alors les chrétiens qui n'ont pas de zèle, c'est ceux qui ne rêvent pas. Tu ne rêves pas le ciel. Parce que dès l'instant où vous commencez à perdre le rêve du ciel, vous commencez à vous comporter dans le présent en désordre. Parce qu'il n'y a rien qui rectifie vos attitudes. Quand il n'y a pas de rêve, vous marchez dans le désordre. Quand vous n'avez pas une vision de l'avenir, votre vie est désordonnée. Quand vous commencez à oublier l'espérance céleste, quand vous commencez à oublier ce jour, sur la terre, vous commencez à être léger. Vous commencez à dire des choses. Vous commencez à être hypocrite. Vous commencez quelquefois à mentir parce que vous ignorez. Vous aurez oublié que Dieu voit ce à quoi vous pensez. Dieu connaît votre cœur. Tu as oublié ce rêve-là. Rappelle-toi. Que tu ne seras pas éternel sur cette terre. Bientôt. Peut-être dans 50 ans, dans quelques mois. Dans plusieurs années, mon rêve, c'est que ce soit dans plusieurs années, que personne ne meure avant le temps. Sache que ce que Dieu a établi pour toi, si quand tu penses au ciel, tu es en train de te voir en train de lutter pour ne pas aller en enfer, c'est un cauchemar. Je dis, il ne faut pas espérer, il ne faut pas commencer à penser comment faire pour ne pas aller en enfer. Non. Ceux qui luttent pour ne pas aller en enfer finissent toujours par attirer l'enfer dans leur vie. On ne lutte pas pour ne pas aller en enfer. On pense au paradis et comme on y est. Je dis, la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. La foi, ce n'est pas une manière de pouvoir fuir nos cauchemars. Plus vous pensez à vos cauchemars, plus vous avez, ça va entraîner, si vous pensez par exemple à l'enfer, ça va entraîner en vous l'esprit de culpabilité constamment. À un moment donné, tu vas tellement te culpabiliser par rapport à tes péchés que tu vas finir par dire, moi, mais je suis déjà trop mauvais. Pourquoi? Parce que dans ta vie, quel acte je vais faire pour ne pas aller en enfer? Et comment je vais faire pour ne pas aller en enfer? Donc, tu penses plus en enfer que ton rêve. Et quand tu commences plus à passer en enfer que ton rêve, tu commences à te battre. Et tu vas te rendre compte que tu es faible parce que dès que tu parles à quelqu'un, au-delà, j'ai encore menti. Mais je suis sale, je suis impur. Oh, ça, je suis condamné. À un moment donné, tu seras tellement fatigué. Tu dis, bon, ce que Dieu veut faire, moi, je suis un gars déjà. Hein? Comme on dit, je suis cabri mort. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Tu vas dire même, Dieu même n'a pas créé en moi de bonnes dispositions. Hein? Regardez, il y a des gens comme les hommes de Dieu là, ils sont cinq vies dans la droiture comme ça. Moi-même, je n'arrive même pas à marcher comme eux. J'ai fait des efforts, je n'arrive pas. Change ta pensée. Et tu vas commencer à arriver, à pouvoir le faire. Sans te rendre compte. Tu vas te rendre compte que, subitement, quelle que soit la tentation, tu ne mens plus. Tu dis toujours la vérité. Tu es quelqu'un d'intègre. Tu vas te rendre compte que parce que tu penses toujours à ton rêve, quand la tentation vient, les péchés du sexe, les choses arrivent, tu es capable de dire non. Parce que dans ton cœur, il y a un rêve. C'est la raison pour laquelle quand vous lisez Hébreux chapitre 11, il dit ceci. Il dit, tous ces gens-là ont tenu ferme parce qu'ils avaient en vue une patrie. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11. Il dit, ils avaient en vue une patrie. En réalité, toute notre fermeté chrétienne vient du fait que nous avons de l'espérance. Quand nous n'avons plus d'espérance, quand nous ne rêvons plus au ciel, on n'a plus la force de marcher droit. Mais aussi, on peut beaucoup plus penser à l'enfer. Quand on pense trop à l'enfer, on n'a plus la force de marcher pour suivre le Seigneur. Penser au paradis, c'est différent de passer à l'enfer. Penser paradis. Dans la Bible même, Dieu parle un peu de l'enfer, mais pas beaucoup de l'enfer, mais parle plus du paradis, ok? Pensez à votre rêve et non à votre cauchemar. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen, amen. Donc notre expérience par rapport à Christ. Une question encore. Comment vous voyez-vous demain en Christ? C'est-à-dire, après avoir pensé au ciel. Sachez-le, hein, le temps qu'on nous sommes en train de passer n'est pas suffisant. Ce genre de pensée, on va le lire tout à l'heure dans Habacuc chapitre 2, verset 2. Dieu dit, il faut les garder constamment devant soi. Alléluia. Lorsque vous perdez la vision intérieure, votre vie va commencer à connaître le trouble. Il faut garder constamment la vision du paradis. Une belle vision, une vision favorable. Toute autre vision négative est du diable. Jésus t'a dit, change ta pensée. Répentez-vous, ça veut dire changez votre manière de penser. Pensez ce qui est juste. Pensez ce qui est pur. Pensez ce qui est digne de louange. Pensez ce qui est digne d'approbation. Quand vous commencez à penser à ces choses, vous les amenez dans votre vie. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 8. Or, l'enfer n'est pas honorable. L'enfer n'est pas pur. L'enfer n'est pas digne de louange. Faites le même exercice pour cela. Comment est-ce que vous vous voyez demain en Christ? Quand je parle de demain, je ne parle pas d'après la mort. Maintenant, je parle d'avant de mourir. Avant même de partir. Quel est le... Est-ce que tu as un rêve pour ta destinée chrétienne? Comment tu te vois demain? Un chrétien qui continue à... Est-ce que tu as une fois rêvé à ça? Dans 10 ans, que seras-tu dans la maison de Dieu? Certains vont se rendre compte qu'en fait, qu'ils n'ont jamais vraiment pensé à cela. D'autres, par contre, peut-être ils se voient toujours comme un simple fidèle, un membre qui arrive. Écoutez-moi. Je l'ai dit la dernière fois. Quand l'Esprit de Dieu vient, selon Actes chapitre 2, il donne des visions, des songes et des rêves. C'est le diable qui tue le rêve. Rappelez-vous, de tous les 12 enfants de Jacob, il y a un qui a fait un rêve et sa vie a changé. Joseph a eu 2 songes. Et le combat du diable, ce n'était pas contre l'intégrité de Joseph. C'était contre ses visions. Parce que quand ses frères ont voulu le tuer, lisez très bien ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, tuons-le, afin que nous voyons ce que vont devenir ses rêves. Satan se bat contre vos rêves. Parce qu'il sait que si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez rien. Une des choses qu'il arrivait à faire en Afrique et aux Africains, c'est de les empêcher de rêver. Les gens te disent, on dit, mon ami, arrête de rêver. Sois réaliste. Ce conseil-là est diabolique avec grand D. Mais grand D, dia. Dia, rediabolique même, s'il te faut. Le rêve n'est pas suffisant. On ne peut pas s'arrêter seulement au rêve. Mais on commence par le rêve. Alléluia. On commence par le rêve. On ne peut pas s'arrêter au rêve. Ce n'est pas suffisant pour que les choses changent. Mais on commence par le rêve. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir que les bonnes choses qui vous sont arrivées étaient plus ou moins pensées. Alléluia. Alors comment vous voyez demain? Il y en a qui vont se rendre compte qu'ils n'ont jamais pensé à ça. Il y a certains, la vision, quand ils n'ont vraiment pas de vision. Il y en a qui pensent, mais ils ne se voient pas vraiment quelqu'un de spirituel. Ils ne voient même pas qu'ils ont grandi dans leur foi. Est-ce que tu as un rêve de ta croissance spirituelle? Est-ce que tu as un rêve en ce qui concerne ta vie de prière dans 3 ans? Tu ne vas rêver à ça? Ce à quoi tu ne rêves pas, ne peut pas t'arriver. Si tu n'as jamais rêvé que dans 6 ans, ou bien dans 2 ans, tu es capable de rester 5 heures de temps dans la présence de Dieu, en train de prier, de chercher la face de Dieu. Si tu ne te vois pas comme ça, cela ne t'arrivera pas. Mais si maintenant, dans le présent, là, tu commences à voir quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est droit, c'est-à-dire tu vois que le mois prochain, tu grandis et tu rêves, tu te vois en train d'évoluer, tu vois vraiment que tu es en Christ et que maintenant tu es capable d'exhorter, tu vois que tu es un instrument entre les mains de Dieu, dans ta famille, tu pries pour les malades, ils sont guéris et ta vie est un véritable témoignage. Tu vois, si tu ne rêves pas, ça ne peut pas t'arriver. Alors il faut commencer à rêver à cela. Il faut voir, amen, que par ton ministère, toute ta famille se tourne vers Jésus. Commence à rêver, ceux qui sont appelés à la prédication. Commence à rêver que tu parles et que les gens pleurent sur leurs péchés. Moi, j'ai rêvé ça. Au début de ma conversion, c'était mon rêve. Je voyais les âmes se convertir. Je me voyais allant de village en village. Et ça s'est accompli. Je suis allé et je vais de village en village pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. J'ai rêvé que j'allais rentrer dans un camp. Je voulais rentrer dans un camp des rebelles pour aller évangéliser. Notre première tentative pour rentrer dans le camp, les gens nous ont dit non. Quand il y avait encore la guerre. La deuxième tentative, nous sommes entrés. Ce jour-là, j'étais dans la joie. Un rêve venait de s'accomplir. Et on a prêché à tous ces gens. Et ils sont partis à la délivrance, eux tous. Parce qu'ils avaient trop d'églises, ils étaient possédés. Plusieurs ont donné leur vie à Jésus. La dernière fois, pasteur Joël, qui est le ressort de la mission, me faisait le point, il dit, tu sais, la seule zone où il y a des troubles en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est dans la région de Séguéla. Et c'est la seule région dans notre campagne qu'on n'a pas visitée. On a pris l'ouest, on a fait Issia, Touba, Odiené. Toutes ces régions-là sont calmes. 1 mois de campagne. Jusqu'à Odiené, c'était avant la guerre. Quand la guerre a frappé, on est rentré à Boaké dans la crise. On est reparti sur Korogo. 2 campagnes à Korogo, 2 campagnes à Ferke, 1 campagne à Bouna. Des croisades de 1 mois. À Boaké même, dans la croisade de Boaké même, les gens étaient en train de dévaliser les banques de Boaké. L'abbé Seyao, ça tirait. Pom, 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 pom. Et nous sommes partis, il n'y a pas eu de mort. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, par ce travail, la paix est revenue dans ce pays. Maintenant, où les gens attaquent, là, c'est Séguéla. Donc, là, on a décidé de partir à Séguéla. Il faut qu'on descende à Séguéla, là-bas. Parce qu'on n'a pas sanctifié la zone. Les gens continuent à s'entretuer là-bas. Puis, il faut qu'on rentre un peu dans l'ouest, là. Il faut qu'on puisse faire un travail là-bas. Amen. Comment vous voyez-vous dans votre vie spirituelle? Si tu n'as pas encore de rêve et que le soir, le temps que nous avons là ne permet pas d'écrire tous tes rêves, dis-toi quand tu vas sortir de ce lieu que tu dois écrire ton rêve. Tu dois rêver de ton état spirituel dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Tu dois avoir un rêve. Tu dois rêver. Tu dois rêver comment tu seras. Si tu ne rêves pas, tu seras quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire que tu vas laisser ta pensée penser seule. Et comme ta pensée aime réfléchir sur les mauvais événements passés, parce que quand quelque chose t'a fait mal dans le passé, ta pensée ramène ça. Donc tu réfléchis, tu penses, mais la vie, j'ai trop souffert, j'ai trop souffert. Tu ne sais pas qu'en pensant que tu as trop souffert, tu ramènes encore la souffrance dans ton futur. On dit la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. L'espérance, c'est le futur et non le passé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va parler de votre expérience personnelle. Maintenant, Max aussi, c'est à fait. Clairement, il faut... Je dis, comment est-ce que vous vous voyez socialement demain? Demain. Comment tu te vois socialement? Certains n'ont pas rêvé à ça. Ou bien même lorsqu'ils pensent à leur vie sociale de futur, ils voient les souffrances et ils pensent, hé, ils sont là. La vie était dure pour moi. J'espère que Dieu me fera grâce. Mais ils pensent plus à ce qui les a fait souffrir. On dit non, on ne veut plus que tu penses au mal. Amen. Réfléchis, pense, rêve. Alors si seulement vois-toi épanoui demain, commence à rêver. Et puis rêve de belles choses. À la vie demain, ça dit que vois-toi dans une maison, par exemple, ta maison est belle, bien décorée, bien. Maintenant, il y a des choses, tout à l'heure, si le temps nous permet, on va toucher ça, sinon peut-être on le prendra le mardi qui suit. C'est qui va venir dans ta pensée pour s'opposer à ton rêve là? On en parlera. Mais là, commence à rêver. Il y en a qui ont des difficultés pour rêver à se voir bien socialement. Parce que dans leur esprit, ils ont associé à la piété la pauvreté. Donc, pour eux, piété égale souffrance. Piété égale pauvreté. Ce n'est pas de Dieu. Enlevez ça de ta tête. C'est un mensonge. Mensonge. La piété signifie un détachement de tout. C'est-à-dire, celui qui est pieux, il est capable de vivre dans l'abondance comme dans la disette. Ça ne lui pose aucun problème. Quels que soient les moyens que Dieu lui donne, il peut les perdre. Ça veut dire qu'il est capable de tout sacrifier pour le royaume. Il n'est pas attaché. Tant que tu es attaché à tes biens, c'est que tu n'es pas encore attaché à Dieu. C'est dans ce cas-là que Dieu dit à ce jeune homme riche, vends tout ce que tu as et viens me suivre parce qu'il était attaché. Ce que la Bible dit, la Bible n'a pas dit que l'argent est un problème. Le verset dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, tu peux être pauvre et aimer l'argent. Comme être riche et aimer l'argent. Ça n'a rien à voir avec ton état. C'est un état de cœur. C'est une affaire de pensée. C'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. Ça, c'est la phrase de Satan. Satan dit, l'argent est la racine de tous les maux. Dieu n'a jamais dit que l'argent est la racine de tous les maux. La racine de tous les maux, c'est le cœur. Si tu es mauvais, l'argent sera mauvais dans ta main. Si ton cœur est bon, l'argent n'a pas de problème avec quelqu'un. L'argent traduit qui tu es, c'est tout. Donc le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est ce à quoi tu penses. Si tu penses que l'argent va te détenir de Dieu, effectivement, dès l'instant où, en même temps tu gères de l'argent, en même temps tu ne penses que tu dis constamment, l'argent va me détourner de Dieu. L'argent va me détourner de Dieu. Et attention à l'argent, l'argent va me détourner. Bon, soit tu vas produire deux choses. Toutes les affaires que tu vas faire vont tomber à l'eau. Parce que ta pensée détruit systématiquement toutes tes entreprises. Parce qu'elle dit à tes entreprises, ta pensée leur dit, si vous réussissez, moi je risque de rétrograder. Donc s'il vous plaît, ne me fais pas prospérer. Attention! Donc quand il y a un bénéfice même, où on t'a donné, tu as fait un bénéfice important, il y a une pensée qui vient. Prends garde que cet argent ne te détourne de Dieu. Tu es en danger. Alors tu deviens comme l'apôtre Pierre. Il pensait, Jésus dit, suis-moi, il pense au danger. Les vagues. Et il a coulé. La mer peut être dangereuse. Mais tout est une affaire de foi. Même quand on parle de l'argent, c'est une affaire qui est relative. Ce que tu es 6 mètres aujourd'hui pauvre, tu es encore riche plus par rapport à certaines personnes. Qu'est-ce que vous appelez richesse? C'est quoi la richesse? C'est juste un truc de relativité. C'est juste relatif. Donc, à partir de quel nombre on peut établir que quelqu'un est riche ou que quelqu'un est pauvre? C'est toi qui crées dans ta tête la limite. Sinon, il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est quoi riche et quoi est pauvre? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Toi, tu peux t'offrir une chemise, il y en a qui ne peuvent même pas le faire. Tu es plus riche qu'eux. Le mot richesse, c'est une affaire de relativité. Mais je vous ai dit que Satan empêche de rêver parce qu'il sème dans l'esprit des gens des mensonges. Un mensonge, par exemple, l'argent égale le péché. Ce qui fait que dès que tu as l'argent, soit toi-même tu vas pécher naturellement. Parce que tu t'es toujours dit que argent égale péché. Donc dès l'instant tes affaires marchent et que les enfants. Là, tu dois pécher. Parce que argent égale péché. Donc en même temps, ta tête change. Tu étais un bon frère en Christ. Dès que tu as l'argent, c'est maintenant que tu as l'argent. Il faut que tu cherches les filles. Il faut que tu cherches. Parce que c'est normal. Tous ceux qui ont l'argent doivent commettre l'adultère. Attends. C'est parce que dans ta tête, il y a très longtemps, tu as lié argent au péché. Donc, quand l'argent est venu dans ta main, tu n'avais pas d'autre rêve de gestion de ce bien. Tu n'as jamais rêvé qu'avec ça, tu pouvais aider les pauvres. Tu n'as jamais rêvé qu'avec ça, tu pouvais changer la vie des gens. Donc, quand ça vient, quand tu te trouves avec un compte en banque sérieux, et que tu n'as pas eu de rêve, tu fais quoi? Soit tu gaspilles, soit tu n'en fais rien, parce que jamais tu n'y as pensé. Tu n'y as jamais pensé. Tu t'es jamais vu bien. Toute ta vie, tu es en train de lutter comment sortir de la pauvreté, mais tu ne penses qu'à la pauvreté. Comment est-ce que tu te vois socialement demain? Commence à rêver. Commence à te voir avec ton ONG. Tu aides les gens. Tu refais les quartiers. Tu changes la vie d'autrui. Commence à voir ça. Quand Dieu te donnera l'argent, tu n'auras jamais l'impression que tu es riche. En même temps que ça va venir, tu as envie d'aider. Tu as envie d'aider. Tu as envie d'aider. Mais si tu n'as jamais pris le temps de rêver, si tu trouves un boulot où on te paye un peu plus que tes espérances, tu es en danger. Ça va te tuer. Et toi-même, tu arrives quand tu regardes l'argent, on m'a donné 10 millions. Et tu prends 10 millions et puis tu ris. Oh, la vie est... Et tu sais pas, tu dis, je fais quoi? Maintenant, ceux pour qui 10 millions, ce n'est pas la richesse. 10 millions ne peut même pas les tenter. Est-ce que vous me suivez? Toi, 10 millions te tentent, mais c'est une affaire de relativité. Lui, 10 millions, ça lui dit rien. Bon, parce que 10 millions n'est pas un problème. Donc, tout est une affaire de ce à quoi tu penses. Donc, vois-toi déjà socialement bien. Il ne faudrait pas que quand Dieu va te bénir, ce soit un accident. Parce que c'est un accident. C'est un accident est toujours fatal. Ça te cogne. Alléluia. Il n'y a pas d'accident. Tu as pensé. Tu as rêvé. Tu t'es vu en train d'aider les gens. Vois-toi. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être, tu vis dans une situation tellement difficile, matériellement, qu'il t'est très compliqué de faire ce rêve. Mais Dieu dit, il faut que tu rêves. Alors, vois-toi dans une belle maison. Vois-toi vraiment dans une très belle voiture. Bien, tu as longtemps souffert de la chaleur. Et ta voiture quand même est climatisée. Bien, mon frère. Tu y es à droit. Tu es un prince. Tu es une princesse. Il faut le voir. Et tu es dans ta voiture. Tu descends. Tu ouvres ton coffre. Et tu t'arrêtes là-bas. Tu construis des choses. Tu aides les enfants de la rue. Tu vois-toi en train de construire des centres de réinsertion. De permettre aux enfants qui sont dans la rue, vois-toi en train de leur permettre d'aller à l'école, vois que Dieu met à ta disposition les moyens et que tu as construit des écoles avec une formation excellente. Il faut qu'on voit cela. Vous savez, si on ne voit pas cela, on ne sera jamais à la tête. On va toujours confesser dans nos bouches. Nous serons à la tête et non à la queue. À la tête et non à la queue. Depuis là, nous disons ces choses. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui ont des opportunités financières et matérielles très grandes. Mais chaque fois qu'ils ont un projet qui va leur apporter énormément d'argent, le projet tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils n'ont jamais rêvé ce qu'ils allaient en faire. Et donc, leur esprit éloigne les gros montants. Quand ils ont un marché de 3-4 millions, ils sont un peu à l'aise. Ouais. Mais si on leur dit, viens signer un marché de 50-60 millions, eux-mêmes leur cœur bat. Toutou. Oh, c'est grand. En même temps, la vieille pensée qui disait que argent égale pauvreté, argent égale péché. Et 40 millions, faut pas que ça me détourne, faut pas que ça me détourne. Attention, je lise des péchés. Tellement tu penses mal. Ton dossier était le premier, c'est dans l'appel d'offres là, c'est ton dossier que tu devais signer. Ta foi est partie déranger celui qui signe les dossiers. Il a regardé, il dit je te prends pas. Et tu arrives, tu pleures, tu dis dans ce pays, les gens sont mauvais. Non. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose tout en sa faveur, même ses ennemis. Alléluia. Amen. Donc le plus important, c'est d'avoir l'approbation de Dieu. Or, tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu veut que tu rêves. Il faut que tu vois. Il faut que tu vois qu'on t'a donné de grands marchés. Il faut que tu vois. Il faut bien connaître les gens. Jésus a dit à ses disciples, nourrissez-les vous-même. Il a dit, j'étais nu, vous n'êtes pas venu me visiter. On doit aller à la Maca. On doit aider les gens qui sont là-bas. C'est notre devoir. Il dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. C'est notre devoir d'aller là-bas. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Tous ces gens que vous voyez qui ne peuvent pas s'habiller, c'est notre devoir de les aider. On ne peut pas être là parler de Jésus et puis ne pas faire cela. Or, on ne pourra pas le faire, ou bien on ne pourra pas le faire de manière sérieuse. Si on ne rêve pas, est-ce qu'on peut rêver? Fais-moi un peu les yeux et puis voyons-nous. Vois-toi socialement bien. Belle maison. Belle voiture. Bien. Tu es bien quoi. Tu as tellement d'affaires. Tu es toujours en deux avions. Tu te reposes dans l'avion. Parler d'arriver dans notre pays. Parler de tes affaires. Parler de ce que Dieu t'a donné. Vois-toi. Vois-toi dans ces choses. Vois-toi socialement. Vois-toi vraiment avec un couple extraordinaire. Un mari idéal. Oh, vraiment l'homme de rêve. Une femme. Waouh. Elle est douce. Même si tu es marié et que ton mari est compliqué actuellement, commence à rêver à lui positivement. Parce que ce que tu vois, c'est ce qui va arriver. Et puis prends le temps pour écrire chaque chose que tu vois. Comment est-ce que tu vois ton foyer? Comment est-ce que tu vois tes enfants? Comment est-ce que tu vois tes parents? Ta relation avec tes parents? Vois-toi dans la vision avec ton mari. Vous partez en vacances. Ouais. Alléluia. Mais il faut voir. Amen. J'oublie la référence. Dans le livre de Genèse, là où Dieu a demandé à Abraham de voir. On va à Genèse chapitre 15. Là où il a demandé de regarder le territoire. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Bon, j'arrive. On va commencer à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Toujours une vision, vous voyez. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après, je m'arrête là, amen. Donc Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un héritage. Un héritage qui sortira de toi. Ce n'est pas les choses que tu as vues. Je te donnerai un enfant. Mais, pour que cela soit concret, regardez. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Donc Dieu lui dit quelque chose, mais il fallait qu'il lui donne une vision. Il fallait qu'il voie, il regarde les étoiles. Et puis sur chaque étoile, il mettait la tête d'un de ses enfants. Amen. Il faut voir. Alléluia. Mais c'est pas seulement le passage. Lorsque Lot est parti, c'est 13 combien? Voilà, verset 14. Ok, merci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Dieu dit, ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Amen. Donc il dit, regarde, il faut voir. Avant de lui donner la terre, Abraham n'était pas encore propriétaire. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, on explique que c'est par la foi. C'est ça la foi. Et n'oubliez pas, la Bible définit Abraham comme étant le père de la foi. Ça veut dire quoi? Il est le modèle de la foi. Quand vous voulez parler de la foi, parlez de lui. Et regardez comment Dieu l'a formé en ce qui concerne la foi. Il y a d'abord la parole qui dit, j'ai établi pour toi des promesses. Je vais te donner un enfant. Mais c'est la parole. Il faut visualiser la parole. Il faut vous donner une image de la parole. Il faut regarder, rêver, imaginer. Amen. Alléluia. Il faut voir votre foyer. Il faut imaginer. Il ne faut pas rêver seulement le jour de la célébration du mariage. Ça, c'est encore une séduction. Quelle robe je vais porter? Ça, là, c'est un bonus. Si tu n'as pas porté la robe, ce n'est pas grave. Parce que quelle que soit la manière dont tu seras sapé le jour de ton mariage, si ton foyer est compliqué, tu vas oublier ta robe. Je te dis que tu vas oublier la robe. Tu vas oublier la robe. Donc en réalité, ça c'est pas un rêve, ça c'est de la. Moi je trouve que c'est de la convoitise. C'est ce que la Bible appelle la convoitise des yeux. À force de regarder les filles s'habiller comme ça au mariage de ta camarade, et moi aussi, quel jour ça va m'arriver? Tu as commencé à voir de la convoitise. Ça c'est pas des rêves. Faut pas convoiter. Regarde ce qui est important, ce qui est pur. Ce que tu recherches, c'est un mari extraordinaire, c'est que toi-même tu sois une femme extraordinaire, que vous avez des enfants, vous avez des enfants merveilleux, il faut le voir. Il faut enlever de ton esprit toutes les images de cauchemars de foyer qui existent sur la terre. Toi, tu es quelqu'un de différent. Ok? Ton histoire n'est pas l'histoire de tes parents. C'est la raison pour laquelle Dieu dit ceci à Abraham. Il dit, pour entrer dans ta destinée, quitte ton pays. Quitte ton père. Parce que tant que tu restes collé avec ton père, tu auras la vision de ton papa. Mais je veux te donner une nouvelle vision. Ce n'est pas ce qui arrive à tes parents qui va t'arriver. Tu es quelqu'un d'unique. Quelqu'un me suit? Alléluia. On a encore d'autres aspects, mais on va le continuer plus tard. On va arrêter pour maintenant. Seulement, juste ce que je veux dire pour conclure, pour cette partie de nos rêves. Vous pouvez déjà essayer de vous exercer dans tous les aspects de votre vie. Mais il faut, ne gardez pas simplement le rêve en image. Il faut l'écrire. Il faut écrire. Si tu peux dessiner, dessine. Habakkuk, chapitre 2, verset 2. Il est dit... Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Donc regardez ce qu'il dit. Dieu dit au verset 2 que, en quelque sorte, pour que la prophétie s'accomplisse certainement, il faut lire couramment la vision ou la prophétie. Il faut l'écrire. Il faut écrire. Les jours suivants, la prochaine fois qu'on va se retrouver, je vais m'y expliquer. Il est probable, mais je ne vais même pas qu'on pense à ça pour le moment, que ton rêve ne soit pas parfait par rapport au plan de Dieu. Ce n'est pas grave. Commence quelque part. Commence à rêver. Quand vous allez rentrer, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Donne-moi de voir ce que tu vois pour moi. Amen. Et aide-moi à voir. Et quand vous commencez à voir certaines choses, écrivez-les. Écrivez le mari de votre rêve. Même si actuellement vous êtes marié, ou bien tu as une femme, elle n'est pas ce que tu veux. Commence à écrire ce que tu veux. Commence à écrire ton rêve. Ouais, ah, ma femme, vraiment, elle ne se met pas en colère. Elle est douce. Mais toi aussi, dans ton rêve, il faut te voir bien aussi. Hein? Il ne faut pas te voir, il ne faut pas dire, elle est douce. Je sors, je rentre à n'importe quelle heure. Et puis elle ne parle pas. Non, non, non. Cette partie du rêve-là n'est pas bien, ok? Voilà. Donc dans ton rêve... Je suis un mari bien. Je rentre à l'heure qui est convenable. Et ma femme est contente. Si par accident un jour, je suis rentré tard, elle est toujours calme. Ok? Faut pas faire un rêve où tu es toujours en dehors. Alléluia. Alors donc, il faut commencer à le faire. Mais il faut l'écrire. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Écrivez. 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 Et puis il dit de faire quoi? Lisez couramment. Couramment, tous les jours, je vois dans le ministère comment je vais aider les pauvres. Seigneur, et tu écris, j'aiderai les gens, je construirai des routes, je mettrai de l'électricité dans les endroits où il n'y en avait pas. C'est ce que tu dois dire de ta vie. Je construirai des orphelinats. Les enfants de la rue auront une mère avec moi. Ils auront un père avec moi. Je serai pour eux le père qu'ils n'ont pas eu. Je ferai ceci, je ferai cela. Et ça, c'est ta révélation. Je ferai ceci, je ferai cela. Et tu écris et tu lis. Je suis quelqu'un de bien. N'aie pas peur de dire que tu es quelqu'un de bien. Parce que Dieu dit que tu es bien. Toi-même, dis-toi que tu es bien. Je suis quelqu'un de bien. Ça, c'est la vérité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as fait des erreurs. La réalité, c'est que tu as péché. Mais la vérité, c'est que Dieu te pardonne si tu te confesses. La vérité, c'est que Dieu te donne une nouvelle chance. La vérité, c'est qu'on peut repartir à zéro avec le Seigneur. La vérité, ça c'est la vérité. Il y a la réalité que tu as connue et il y a la vérité de Dieu. Et c'est ça en quoi il faut croire. Lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas, il voit Christ. Donc, quoi ton problème? Pourquoi tu veux dribbler Christ pour que Dieu te voie aussi? On dit reste en Christ, reste derrière. Donc, quand tu marches, tu es derrière Christ. Mais toi, tu veux sortir pour dire, Dieu, regarde-moi, je suis sale. Dieu savait que tu n'étais pas propre. Tu restes derrière. Lui, il te purifie. Lui, il te sanctifie. Alors, quand tu te regardes, tu ne vois pas toi. Tu vois Christ en toi. Et tu es capable de dire, alléluia. Comme Christ en moi et Christ est bien, alors je suis quelqu'un de bien. Christ en moi, Christ est pur. Je suis quelqu'un de pur. Christ en moi, quand Christ parle, il parle des choses vraies. Il dit des vraies. Moi aussi, je parle juste. Je parle droit. Vois-toi dans ta vision. Christ pleinement en toi. Dans ton rêve, vois Christ se manifester au travers de toi. Ça, c'est l'avenir que Dieu a signé pour toi. La Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors Christ en nous, on peut espérer tout ce qui est glorieux. Christ en toi, rêve ma soeur. Rêve mon frère, parce que ce n'est pas par tes propres forces que cela va arriver, mais c'est par la puissance de Dieu que les montagnes vont se déplacer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur. On va parler à Dieu pour qu'il nous aide à appliquer ces choses. Pour qu'il nous donne la force. Et pendant que tu vas prier, tu vas vraiment prendre la décision. Tu vois, si tu vas prier une feuille simple comme étant un brouillon, c'est juste pour faire le brouillon. Mais ton rêve, tu vas peut-être l'agrémenter au fur et à mesure. Tu vas peut-être l'améliorer au fur et à mesure. Mais tu vas prendre une feuille très belle, quelque chose de très beau. Tu vas bien saisir ça. Faire même des acrostiches avec ça. Tout ce que tu veux. Mais investis même dans cela. Il faut que ce soit beau et ce soit conservé dans ta chambre. Devant toi, tous les jours, tu te lèves et tu lis couramment la prophétie sur ta vie. Tu lis couramment la prophétie qui concerne ta famille, ta vie, ta destinée, ta vie en Christ, ta vie après la mort. Toutes ces choses-là, tu les prononces couramment sur ta vie. C'est le début de la manifestation de la foi. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur. Brianda bababa, chantari de brosara bababa, chendere de vos. Riando bro de carianda bradisara barabrenda bradiclorianda bros. Bridelo rianda bara, chantari de vos. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, merci pour ta parole dans nos vies. Merci Seigneur Dieu, parce que tu viens briser le voile et tu nous apprends à voir, Seigneur Dieu, selon toi. Tu nous apprends, Seigneur, à regarder vraiment selon toi. Tu dis que les projets que tu établis pour nous sont des projets, Seigneur Dieu, de paix, des projets de bonheur. Tu connais les projets que tu établis pour nous et tu nous demandes de voir, Seigneur Dieu, d'avoir une vision favorable de notre avenir, afin, Seigneur Dieu, d'avoir une vie dirigée, conduite par toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais en nous. Merci, Père, pour ta grâce divine. À toi l'élévation, la louange et la magnificence des siècles. Louange et gloire, Seigneur Dieu très haut. Au nom de Jésus, mets la main sur les yeux et lève l'autre main. Et puis tu vas te tenir debout, s'il te plaît. Lorsqu'on parle de la vision, on parle de la vision du cœur. Saint-Esprit, j'ai donné ce soir la parole que tu m'as donné pour tes serviteurs et tes servantes. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu ouvres nos yeux, afin de voir ce que tu vois pour nous. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Que l'aveuglement, que la cécité spirituelle soit brisée à cette heure, au nom de Jésus-Christ. Que la vision de la peur soit brisée au nom de Jésus. Que les visions impures soient chassées et brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, il est dit de toi que quand tu viendras, tu as dit que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Qu'il en soit ainsi maintenant dans nos cœurs. Que la vision soit en nous. Que le rêve vienne en nous. Maintenant, nous rêvons. Maintenant, Seigneur, nous voyons. Maintenant, nos yeux se lèvent. Et nous regardons, Seigneur, de tous côtés, vers cet avenir favorable que tu as pour nous. que tu as pour nous, Seigneur Dieu, après la mort, que tu as pour nous, Seigneur Dieu, pendant que nous marchons sur la terre. Nous voyons, Éternel Dieu des cieux, ce que tu vois pour nous. Tu nous as déjà déclaré de manière claire et certaine que les projets que tu établis pour nous sont des projets d'avenir, sont des projets d'espérance favorable. Éternel, donne-nous de les saisir. Tu n'as pas projeté de nous détruire. Tu n'as pas projeté le mal sur nous. Ta parole est la vérité. Maintenant, Seigneur, merci parce que nous croyons ces paroles. Comme Abraham, lorsque tu lui as montré ces choses, la parole déclare qu'Abraham a cru. Qu'Abraham a cru. Oh Dieu, donne-nous de croire aujourd'hui. Que rien ne vienne nous distraire. Béni sois-tu Dieu très haut. A toi la gloire, l'élévation, c'est des siècles. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.